Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Certainement, j'occupe le fauteuil de Mme Normando qui est absente aujourd'hui. Elle sera de retour demain. Premier sujet, Luc, la COP27 qui a pris fin. D'un côté, création d'un fonds, mais de l'autre, pas vraiment d'entente pour réduire les gaz à effet de serre.
Ouais, c'est ça. La grosse réalisation, c'est le fonds pertes et dommages. C'est un fonds qui va permettre aux pays, et là, c'est vraiment mentionné, qui sont particulièrement vulnérables à faire face à des dégâts irréversibles. Donc, c'est pas de l'argent pour tout le monde. Là. C'est de l'argent pour, tu sais, les îles Seychelles ou telle vallée dans le Bangladesh qui se fait inonder à répétition. Donc, ça va être un fonds pour ça. Pour l'instant, il y a juste 330 millions qui ont été consacrés, garantie. On s'attend à ce qu'il y ait un peu plus. Évidemment, le gros enjeu là-dedans, c'est que il y a des pays qui refusent de participer, dont la Chine. Et donc, évidemment, que c'est pas un fonds là qui touche tout le monde, mais au moins il y a une entente entre l'Union européenne puis les États-Unis. Une fois ceci dit, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ils n'ont pas réussi aucune avancée. Le GIEC avait des grosses attentes. T'sais, le GIEC, c'est le groupe d'experts, puis il avait dit, faudrait qu'on change les cibles puis qu'on change les moyens pour atteindre les cibles parce que les impacts calculés et la vitesse à laquelle ils arrivent vont être beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé. Donc, on s'attend à ce que 2027, d'ici la COP27, il y ait des dépôts de documents qui disent on va faire plus puis on les aurait entérinés à la COP27. C'est pas du tout ça qui s'est passé. L'autre déception, c'est que il n'y a pas eu des questions de pétrole. Le pétrole, tu sais, qui est comme la source même des gaz à effet de serre. On s'attendait à des évolutions là-dessus. Il n'y en a eu aucune. Et pire, il y avait 960 lobbyistes des entreprises du pétrole. On a reproché au Canada d'en avoir accueilli une douzaine, mais les pays du Golfe, les Émirats, etc., n'étaient pas en reste. L'industrie du pétrole était présente. Ils ont même signé des ententes sur place pour vendre plus de pétrole et de gaz.
Moi, je connais pas ça comme toi. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je regardais ça à distance, tu sais, puis comme tout le monde, tu lis. Puis, je me demande jusqu'à quel point, au-delà d'un engagement d'aider des pays qui vont pratiquement disparaître, ou en tout cas qui risquent d'être amochés, là, tous les engagements depuis le début donnent jamais de. On est toujours hors cible. Puis pas que le Canada, là.
Oui.
Systématiquement. Puis là, la conclusion qu'on a, c'est de dire, de toute façon, on perd notre temps, là. C'est-à-dire que ce qu'on a à faire, c'est peut-être aider ceux qui vont se faire frapper le plus et nous se préparer. Je comprends que tu peux pas dire, là, il n'y a pas un effort pour réduire. Là. Mais tu sais, tu fais quoi avec le mécanisme, une cimenterie qui est la plus grosse source de pollution?
Ben pas, le monde a décidé depuis longtemps qu'il ferait rien. Hein. C'est décidé, là. Ça, ces affaires-là, tu peux pas. Ils ne peuvent pas faire autrement que de continuer à pousser sur le message. Puis il y a des vrais efforts qui se font. Il y en a des vrais efforts. C'est comme tous les États nord-américains de la côte est sont très engagés dans les énergies renouvelables. Donc, beaucoup d'éolien, beaucoup de photovoltaïque. L'Allemagne, beaucoup d'éolien. Le Danemark, beaucoup d'éolien aussi. La France va repartir son nucléaire. La Norvège a beaucoup électrifié ses transports, 95% pour les voitures. Donc il y a des efforts, mais la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue d'augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pays pétroliers veulent rien savoir. Le Canada en premier, là. Le Canada veut rien savoir. Au Canada, on limite nos efforts à deux, trois affaires. Première affaire, on fait une inspection des puits de méthane, des fuites de méthane. Donc, quand tu fais du gaz de schiste, il y a souvent des fuites de méthane. Le méthane, c'est plus réchauffant que le carbone dans un facteur de 80 fois plus réchauffant sur la durée de vie. Fait que, donc, ça, c'est pas pire. C'est un bon move. C'est correct. T'sais, après ça, on donne de l'argent puis des subventions pour fermer des puits de pétrole abandonnés. Ça aussi, c'est un bon move. Il y a la taxe carbone. C'est un excellent move aussi.
Bon, mais tu vois, je relisais les propos du professeur Pinault ce matin. Je sais pas, peut-être la presse, là, mais il disait le plafond du marché du carbone est tellement élevé, c'est comme si tu disais à des nains, vous êtes dans une maison avec un plafond cathédrale. C'est pas ben ben
c'est
risque.
Plein ça. Mais c'est ça le problème de toutes les efforts du Canada, c'est ça le problème. C'est que sur papier, tu dis, ah, écoute, c'est bon, c'est pas si pire. Mais comme l'exemple, l'image que tu donnes, le nez avec un plafond cathédrale, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'adéquation entre les efforts.
Ça n'a pas de pression.
Ça, non, ça, en bout de ligne, là. Mais là, t'as Guilbeault qui s'énerve puis qui dit aux pétrolières, là, il va falloir investir dans la recherche, dans la captation du carbone, là, c'est le temps, là. Ah oui, il y a une autre chose que le Canada fait qui va arrêter de donner des subventions pour l'exploration. Il en donnait jusqu'à cette année, ça devait finir en 2022. En 2023, je pense qu'il y a un autre 8 milliards qui va être donné. Puis après ça, c'est fall ball fini. Ça a déjà été le pays qui finance le plus l'exploration pétrolière au monde par capita là, et par baril. Et donc ça aussi, c'est comme c'est des bons gestes, mais aucun de ces gestes-là.
Mais je me mets dans la peau de nos auditeurs, des auditrices. T'as peu, la voiture va pas disparaître demain à essence, là.
Non.
Et l'offre de transport public est pas encore adéquate. On a pris tellement de retard. Puis, tu sais, quand tu disais qu'à Montréal, il n'y a pas eu de nouvelle station de métro depuis la station de Laval, là, finalement, dans le Grand Montréal. Là.
Non, c'est ça.
Ben non. Honnêtement, là, tu dis, écoute, moi, je veux bien, là, mais...
Mais non, mais regarde comment Legault et Fitzgibbon ont réagi. Ils ont dit, waouh, enfin, une opportunité de faire du développement économique. C'est cool, tu sais, on va faire plus de centrales, on va vendre notre électricité, on va faire de l'hydrogène, on va attirer les centres de données, on va... Tu sais, ils l'ont vu comme une opportunité, puis on va développer la batterie, la filière batterie, on va creuser beaucoup de mines, etc. Donc, tout le monde le voit comme une opportunité de développement économique. Il y a des pays qui font des vrais efforts, des vraies contraintes. C'est comme, par exemple, en France, t'as plus le droit de faire un vol de moins d'une heure en avion. Tu dois prendre le train. Mais il y a un train. Il est disponible. Nous autres, on n'en a pas.
Mais écoute, j'ai un ami qui est allé à Québec en train, là.
Ouais.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, puis ça prend combien de temps?
Ça prend une bonne heure et demie, une heure, mettons, de plus.
Ouais, c'est ça. C'est très long. C'est très long parce que le train.
Arrête.
Il est pas prioritaire sur la voie. Fait que dès qu'il y a un train de marchandises dans l'autre sens, il arrête. Là, un des gestes, justement, du fédéral, qui est pas pire aussi, c'est, de financer le train à grande fréquence. Ça pourrait être bon entre Québec puis Toronto. Peut-être Windsor. Mais ce sont pas des mauvais gestes. Mais, tu sais, les impacts, là, regarde les impacts. Nous autres, on dit, ah, au Québec, c'est pas si pire. Quand même, il ferait un peu moins froid. Bon, mais attends une minute. Premièrement, moins d'apport en eau, c'est pas impossible, ça. Moins d'apport en eau, d'avoir plus d'évaporation, plus d'été chaud, puis moins d'apport en eau, moins de pluie. C'est arrivé, ça, des dernières années, moins de pluie. Là, on n'a pas eu un automne pluvieux. Ça veut dire moins d'eau dans nos barrages. Puis toute notre solution passe par l'hydroélectricité. S'il y a moins d'eau dans les barrages, oups, c'est arrivé dans le passé. Je travaillais chez Hydro-Québec à une époque où on avait des facteurs de production qui étaient en deçà de la capacité maximale parce qu'il y avait moins d'eau dans les barrages. Après ça, toutes nos routes explosées. Quel que soit l'argent que tu vas mettre dans les routes, là, gel, dégel, 20 fois par hiver, il n'y a rien qui peut résister à ça. Ensuite de ça, le prix des aliments. Parce que nos aliments, ils viennent de Californie, ils viennent du Chili, on ne les produit pas tous ici. Bon, on va en produire plus ici, mais ceux qu'on va produire ici vont nous coûter plus cher aussi. Donc, une augmentation du prix des aliments. Donc, une inflation plus élevé à long terme. Après ça, les réfugiés politiques, l'asile politique. Tu sais, on le dit, je mets Roxham, là, on est passé de 12 000 à 30 000, puis on va atteindre 50 000 là, cette année. Là. Attends-toi à ce que ça augmente encore. Pourquoi? Parce que c'est le yarbe en Haïti, c'est le yarbe au Mexique, c'est le yarbe en Amérique latine. Et donc, ces gens-là, il y en a qui vont partir, il y en a là, qui vont faire preuve d'entrepreneurship, tu sais, qui vont dire, OK, ça va faire, je regarderai pas ma famille mourir ici, moi, là.
Puis, ouais, mais en même temps, on a une capacité quand même d'accueil, puis le Canada est quand même un pays qui accueille pas mal plus que beaucoup de pays industrialisés.
Oui, c'est ça. On a une capacité d'accueil.
Puis là, je parle d'immigrants réfugiés, là.
Encore faut-il les accueillir. Hein? Tu sais, on peut en parler de ça, là. Comment on les accueille? Puis comment on les dirige vers des emplois, des logements? Il n'y en a pas de logement. En partant, tu sais, c'est 3 semaines. On leur donne un logement pendant 3 semaines. Après, c'est dans la rue. Il y a un pourcentage de ces gens-là qui vont se ramasser dans la rue. Donc, mets tout ça ensemble. Inflation, plus de beaucoup plus de misère humaine et d'itinérance, route explosée, production électrique diminuée, donc augmentation des coûts électriques. Même nous, qui ne vivrons pas beaucoup les impacts par rapport au Pakistan, au Bangladesh, nous autres, on se dirige aussi vers beaucoup d'années difficiles.
Bon, ben, joyeux Noël, tout le monde, quand même. Non, mais c'est parce que...
Ouais,
c'est
ça.
Mais c'est parce que ces conférences-là, je les suis depuis le début. Puis, tu sais, au début, t'es un peu... Tu dis, bon, ben, la planète prend le temps de s'asseoir, puis ils prennent le temps de... Puis ils se fixent des cibles. Puis là, tu sais, au début, tu dis, bon, OK, on l'a pas eu cette année, puis tout ça. Puis je me souviens de Kyoto, puis Stéphane Dion, puis je me souviens de... Puis là, c'est comme... OK, en fin de semaine... Non. À l'an prochain, s'il vous plaît.
Ben écoute, c'est la même chose avec la faim dans le monde. C'est la même chose. Toute l'aide internationale, là, ça ressemble à ça. Là. Tu regardes, t'as Trudeau qui vient de concéder 16 millions de dollars d'aide à l'Haïti. On comprend-tu que 16 millions de dollars d'aide à l'Haïti, c'est comme si je te donnais un petit bout de salade gros comme le bout de mon doigt, là, puis que t'as faim, t'es un manchot. Ben non, c'est des milliards que ça prend dans la plupart de ces pays-là. Donc l'aide... Notre engagement par rapport aux autres pays de la planète, puis par rapport au climat, puis par rapport à tout ce qui est long terme, est faible.
Au retour de la pause, on va parler bon, de cette enquête sur cet entraîneur de basketball, violence physique verbale, relations sexuelles, disons forcées. Et je lis ce matin là, sur TVA que la police de Longueuil va enquêter sur cet entraîneur. Mais on va parler du phénomène plus global au retour.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
La commission Normando-Ferrandaise.
On a vu ce dossier qui a été présenté à JE concernant l'entraîneur Danny Vincent, un entraîneur de basketball pour qui la police de Longueuil a décidé d'enquêter concernant des abus physiques, de la violence verbale aussi. Et on a vu d'autres cas dans le sport depuis le début. Et dans le fond, quand on regarde ça, tu te dis, est-ce qu'il y a une solution? Je vais lancer la discussion ce matin parce que je pense que ça concerne pas juste le basketball. Là. On l'a vu dans le patinage artistique, on l'a vu dans le ski, on le voit beaucoup dans la haute compétition. Mais ce matin, notre invité qui fait partie, qui dirige en fait le groupe Sport Aid, qui récolte les plaintes, disait que oui, les entraîneurs, mais aussi les joueurs entre eux, sont capables de violences verbales et physiques en compétition, et les parents, évidemment. Un auditeur m'a écrit, il dit qu'il y a 20 ans à Vancouver, il était coach d'équipe, et pour chacune de ses équipes, mettons, de compétition, il y avait un chaperon. Ça pouvait être un parent. Ça pouvait être un directeur qui, lui, arrivait à côté puis surveillait. OK, il se passe quoi? Comment ça va dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a de la proximité? Est-ce qu'il y a des crises? Puis bon, ça, c'est un commentaire. Puis j'ai un coach qui m'a écrit qui dit maintenant, c'est rendu comme si on ne peut plus pousser la note puis hausser le ton pour avoir des meilleurs résultats. Et lui, il demeure convaincu. Je ne dis pas qu'il faut rendre les athlètes sous pression ultime, là, mais que les gens sont rendus trop fragiles.
Ben, moi, j'aimerais ça qu'on fasse une petite distinction dans plusieurs de ces affaires-là. Effectivement, on peut se poser la question de la fragilité.
Tu sais, abus sexuel, c'est une affaire. Là.
Ben, justement. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on mette tout dans le même bain. Parce que si on met tout dans le même bain, on n'arrivera pas à lire la situation puis on n'arrivera pas à trouver des solutions. Abus sexuel, c'est qu'on oublie ça. Là.
C'est une personne en autorité en plus.
Puis en plus, ça arrive souvent dans des sports où les jeunes filles sont très jeunes, mais pas juste là-dedans, mais enfin très jeunes. T'sais, patinage artistique, gymnastique, il y a eu des cas graves.
Ski alpin.
Ski alpin. Bon, là, ils sont un peu moins jeunes, ski alpin, mais déjà les plus jeunes, là, ça comme ça, le chaperon obligatoire, tu sais, obligatoire. Après ça, ski alpin, oui, chaperon. Puis après ça, les autres, donc tout ce qui est sexuel, on encadre ça à mort, en commençant par les plus jeunes. Ensuite de ça, l'autre aspect qui est violence psychologique. Violence psychologique et physique. Ben là, ce que je propose, c'est de dire, il faut qu'on se donne des normes puis des critères. D'abord, sur des enfants, c'est zéro, tolérance zéro, parce qu'il y a estime de soi. Puis en plus, les commentaires sur le poids, parce qu'effectivement, tous ces sports-là, on l'a vu, là, Tutberiz, la coach russe de Valievia, là, la
gymnastique, là?
Non, c'était en patinage artistique, mais il y a eu la même chose en gymnastique. Mais la coach russe interdisait de boire de l'eau les journées de compétition, parce que pour faire un quadruple axel, là, il faut que tu pèses 80 livres. Là. Il y en a peut-être qui vont réussir un peu après, mais à répétition, il faut que tu sois extrêmement légère. Donc, on les empêche de manger, on les tresse de grosses. Dès qu'on s'aperçoit qu'ils ont triché, qu'ils ont mangé du sucre, c'est la punition, etc. Ça devrait être encadré à mort. Dans certains sports, ça devrait être encadré à mort. Maintenant, un gars qui passe sa vie à hurler sur les athlètes, ben ça, faudrait peut-être... c'est toxique, c'est négatif, on n'en veut pas, mais il faut pas le mettre dans la même catégorie que toutes les autres. C'est pas la même affaire. Il faut distinguer, à mon avis, pour trouver des solutions adéquates pour chacun des problèmes. Parce que si notre seule réaction, c'est l'indignation, puis qu'on met tout dans le même bandeau, on ne trouvera jamais de solution.
Non, mais tu sais, on a tous vu là des entraîneurs au hockey, debout sur le banc, hurler. Puis là, je parle pas de professionnels. Je te parle d'hockey mineur, avec des jeunes c'est une ligue, appelons ça du sport là, de divertissement, puis on est là pour s'amuser en principe. Mais des coachs qui prennent ça, les parents, on a parlé ad nauseam, mais c'est plus une façon de faire. Ce que je veux dire, c'est que ça te donne plus rien de crier après le monde pour obtenir des résultats. Écoute, dans le livre de Pierre Gervais, là, qui était le directeur de l'équipement chez le Canadien, Pat Burns pique une crise, il pogne un baril de Gatorade où il y a toutes sortes de cossins là-dedans, puis il te garoche ça, puis il te revire tout à l'envers dans la chambre. Tu sais, tu peux pas faire ça aujourd'hui, là. Tu sais, Pat, c'est une ancienne police, puis t'es pas content, là. Mais puis on parle de professionnel, mais tu sais, tu peux pas avoir une attitude.
Tu peux pas, mais en même temps, tu sais, non, tu peux pas. Point, tu peux pas. Phrase suivante, ça va arriver encore. Ça va arriver encore. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais qu'on distingue. Tu sais, il y avait un coach qui entraînait mon fils de hockey, là. Je pense qu'il a jamais parlé de sa vie. Il parlait de même parce qu'il criait tout le temps, avec la voix était, il hurlait sa vie tout le temps, hey, ah! Mais il avait 7 ans, les enfants, tu sais, sa glace. Mais il était pas toxique pour 2 sous, là. Il était gentil comme tout. Mais il criait, il criait, il criait, puis il était en tabarouette pour tout le, il était intense, comprends-tu? Mais lui, il a jamais dit à un enfant, toi, t'es un petit gros, t'as aucune chance au hockey, tu vas rester sur le banc au bout. Puis détruire son estime de lui. Ça, c'est pas pareil, là. Ça, c'est pas pareil. T'es pas dans le même game, là. Fait que moi, le gars qui crie, ça me dérange pas.
Non, mais écoute, j'ai déjà vu de ces entraîneurs qui ont été. Puis on parle toujours physique, là. Puis verbal. On parle pas d'agression sexuelle, là. Qui disent, si tu veux aller chercher le maximum d'un athlète, t'es obligé de le pousser au bout. Parce qu'ailleurs dans le monde, là, je te parle, là, de haute compétition, ben, c'est comme ça que ça marche. Puis beaucoup d'athlètes le savent. Puis ils comprennent qu'il faut passer par là.
Écoute, regarde.
Moi, je le sais pas, là. T'sais.
Moi non plus, je le sais pas. Mais je peux te dire, combien qu'on a vu de films avec tous les athlètes dehors, toute l'équipe dehors, sous la pluie, la nuit, en train de s'entraîner, ouais. En disant, là, c'est, on joue, qu'on a. Puis là, c'est. Puis après, les athlètes racontent que c'est les plus beaux moments de leur vie d'être passé par cette école-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer. Il faut distinguer. Oui, il va falloir pousser les athlètes. Oui, écoute, en cyclisme, là. T'as pas idée. Faudrait que tu sois sur un des cols, mettons, le Tourmalet, puis les regarder monter à 20 km/h, alors qu'un cycliste normal, avec des jambes normales, il monte à peu près à 10 km/h, la moitié de la vitesse ou même moins, pour comprendre que ces gars-là, même à Noël, ils roulent 100 km minimum. Là, je veux dire, c'est hors du commun, c'est hallucinant, c'est extraordinaire, c'est incroyable. D'ailleurs, même chose. C'est quoi le pourcentage des joueurs qui ont des bourses à la NCAA qui vont finir par se ramasser dans une équipe américaine? C'est très, très, très peu. Fait que celui-là, il va falloir qu'il se pousse, qu'il se pousse, qu'il se pousse, qu'il se pousse. Donc, c'est inévitable que dans ce processus-là, on dépasse les limites. Maintenant, faut pas qu'on dépasse les limites en tuant l'estime de la personne. Et ça,
en écœurant des plus jeunes du sport, parce que c'est ben, ça aussi, quand on fait des tribunes téléphoniques, ben, des jeunes qui disent, que ce soit le coach, le parent, tu sais, de voir des adultes hurler leur vie, là, puis se penser, bon, ça t'écœure de jouer, t'as pas envie de...
Puis rajoute à ça, ça t'écœure de jouer, fait que tu rajoutes à cette pression-là du harcèlement sexuel, du dénigrement. Hey, moi, j'ai regardé la liste des sports, là, où il y a eu des problèmes.
C'est à peu près le bottom au complet, là.
Au complet. Quand t'es rendu que c'est le bobsleigh, il y a 80 personnes qui se sont plaintes de leur coach, là, si ça va pas bien.
On vous écoute ce midi, monsieur, puis on vous retrouve demain avec Nathalie.
À demain, Paul.
Merci.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.